Il dit, je bâtirai mon église. Les derniers deux mots, mon église. Ce n'est pas la nôtre. Appartient à lui. Mon église. Et il dit, je bâtirai. Donc, ce n'est pas nous. Encore, c'est lui. Et de temps en temps, dans le travail et tout ce que nous faisons, j'ai trouvé moi-même un peu, je commence à prendre contrôle. Et le Seigneur dit, Et un peu d'expérience dans de ma vie, le premier champ missionnaire où je suis allé avec ma femme après notre mariage était en Uruguay. Et on se trouve en Uruguay, dans la petite ville de Las Piedras, on peut dire banlieue de Montevideo, mais loin quand même, deuxième ville après Montevideo. Et on était à côté d'une petite ferme, le fermier là, il fait le lait pour, il avait 5 vaches, et il fait le lait pour toute la commune là. Et il était un homme très gentil, on a témoigné beaucoup. Et il avait un tracteur qui s'appelle le Marc Buff. Dans cette époque, il n'avait pas le tracteur motorisé, il était un Buff. Mais ce tracteur Buff était incroyablement grand et incroyablement fort. J'étais étonné simplement pour le regarder. Mais il semait le maïs pour donner le maïs pour ses vaches. Et voilà, le char était arrière le bœuf. Et j'ai demandé si je peux marcher avec lui. Et il dit, bien sûr. Et donc, je marche, on parle. Mais le bœuf était tranquille, était énorme. Était énorme. Et je dis, oh, c'est mieux qu'un John Deere. Pas de problème d'émission, là. Fertilisé pendant qu'il allait. Et donc, il était bien. Et l'homme est simplement dit, il a tout arrangé, les mains sur le char. Charou. Voilà. Et donc, il était là, et moi à côté. Et il simplement fait, et tout un coup, tous les muscles de cette bête, cet énorme animal, commençait mis en place et il commençait à marcher. Boum, boum. Il savait exactement où aller. Il n'arrête pour rien. Et sans rien dire, quand il termine le fil, il tourne et il passe de l'autre côté comme ça. Et l'homme, il dirigeait le char et n'importe quelle chose était là. Était cultivé, hein? Soit les pierres, soit les troncs d'arbres, et pour le bœuf, c'était rien. Et simplement, il marchait, boum, boum, boum. C'était énorme. J'étais fasciné par ça, et toute la commune après est passée pour recevoir leur lait et tout ça. Et ainsi, j'ai eu un peu d'enseignement concernant les bœufs. Bon. 2 ans, j'étais là, et après, on changeait le champ missionnaire au Pérou. Pérou était autre pays, aussi Amérique latine, mais le Seigneur a commencé à bénir. On a commencé dans une petite chambre, et loué leur lieu de garage, c'était, on dit, sans toit. Et donc, il n'avait pas de voiture, une dame, et donc on commençait là, avec le permis pour avoir les études bibliques dans la salle. Est devenu trop petit, et après on change à un petit appartement, premier étage. Après, chaque fois était à peu près 6 mois. 6 mois après, on était dans une petite maison. Et tous ces prix étaient les mêmes prix. Étaient... parce qu'il veut, là, avoir les dollars. Et donc, la chambre était 200 dollars. Et le petit appartement, nous disons la chambre en haut, pour l'église, était 200 dollars chaque mois. Et la petite maison, 200 dollars. était une inflation, et donc pour nous, les États-Unis, était très convenant. Et finalement, pendant qu'on était dans la petite maison, une maison à l'autre côté du boulevard s'ouvre et était une maison à vendre. Nous n'avons pas cet argent. Mais j'ai approché, j'ai dit, je veux louer. Elle dit, non, j'ai trois acheteurs. Vous ne pouvez pas louer, non, pas un problème. Donc, pas possible. J'ai prié avec Ali. On fait un petit Jéricho autour de la propriété et prier. Une heure de matin, hein, une heure de matin, je ne veux pas que personne sait, sauf Dieu et ma femme et moi. Et donc, on a prié. Une semaine et demie après, vient le propriétaire avec sa femme. Et elle dit, premièrement, tu m'as triché. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est tricher? Elle dit, tu as prié. Elle était catho. Hein. Et 10 ans après, j'ai trouvé la réponse parce que c'est eux qui rentraient avec leurs voisins. C'était une ville avec beaucoup de gens militaires, était général, colonel, pardon, arrière nous. En face, c'était un général avec son fils, capitaine dans la marine, mon favori. Et deux portes après ça, était un admiral. Tous les gens très gentils, mais était comme ça, notre zone. Et il me contait ça. Des années après, il me contait, on était dans on a vu un film, une ciné, et on rentrait très tard. Et quand on est dans la maison, on vu quelqu'un dans la rue. Et c'est la femme de l'admiral. Elle me dit, j'étais dans sa maison avec ma femme en train de manger après, et elle dit, nous avons vu, toi et ta femme. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ça c'est le pasteur, ce nouveau pasteur. Oui, il fait quoi? Et je ne sais pas, il semble qu'il prie ou quelque chose comme ça dans la rue, qu'est-ce que c'est ça? Et comme ça, il était courant qu'on était en train de prier. Et pour cette raison, la femme du propriétaire est arrivée en disant, tu m'as triché, parce qu'on a prié pour le propriétaire. En effet, tous les acheteurs sont disparus. Il avait besoin pour l'argent. Il dit, est-ce que nous pouvons louer cette... vous pouvez louer de nous, mais avec la condition que tu seras là pour payer après. Et je dis, bien sûr. Et ça, c'est ce que nous voulons. Et en plus, il nous donnait, la location était comme des paiements. Pas mal. Était tout de Dieu dans cette époque. OK. Comme ça, on entre la propriété et après un autre 6-7 mois, on a eu l'argent pour acheter tout à un prix très bas, moins qu'il a écrit dans le panneau. Et on commence le ministère plus grand. Quand le ministère était en train de développer, on a commencé l'église. Après, pour être court, on a décidé de commencer une école chrétienne comme ministère de l'église. On a fait ça, et ça a grandi. Après, et on a commencé avec 7 élèves et 6 professeurs. Et ma femme dit, tu penses que nous avons trop de staff? Et je dis, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Et donc, parce que je veux occuper les personnes dans l'église avec quelque chose, et était une aide pour nous parce qu'on peut payer par les matriculations et tout ça. Et donc, vous avez les gens qui veulent servir le Seigneur dans la maison, on peut dire. Et donc, c'était là. On a fait ça. A marché, et la première année, on a grandi par 20. Et après, un autre, pendant l'été, on a grandi un autre 20. Et 20, comme ça. Et tout d'un coup, on arrivait à 130 élèves. Et donc, bâtiments remplis. Mais au Pérou, comme dans certains autres pays aussi, ils n'avaient pas suffisant de bâtiments et trop d'enfants. Donc, ils ont fait un système de école de matin, école d'après-midi et école dans le soir, dans la nuit. Trois fois, autre équipe, autre école, autre groupe d'élèves. Et quand on était rempli, j'ai encore des parents qui veulent, est-ce que nos enfants peuvent entrer? Ce que je ne savais pas quand j'ai commencé cette petite école pour nous, c'est que c'était la seule école chrétienne avec les professeurs croyants et avec le curriculum croyant dans toute la nation. Les catholiques ont eu leur truc, les adventistes étaient déjà là, mais ils faisaient plutôt la nourriture, et donc nous étions là. Et je ne savais pas, mais tout le monde veut entrer dans notre école. On dit, OK, tout le monde peut entrer, mais il faut être une liste. Les membres de l'église premièrement, après les membres des églises de la même foi, et après tout le monde. Et donc, il est tombé comme ça. Et ce qui arrive, c'est que on a changé, et j'ai dit, on a dit, on va essayer le deuxième shift. OK, donc on aura une école dans l'après-midi aussi. J'ai demandé le professeur, est-ce que tu veux que nous trouvons une autre équipe ou est-ce que tu veux que je te paye vous-même double? Vous savez le résultat. Ils ont travaillé dur, mais ils ont resté et tout le monde était content. Et ainsi, l'école a grandi à 260, comme ça. Et aujourd'hui, l'église continue de grandir. Aujourd'hui, l'école toujours fonctionne. Moi et elle étaient là seulement 82 à 92. Mais toute l'opération de l'église continue. On a commencé une deuxième église, en même temps. On a commencé un centre pour la réhabilitation des drogués qui a continué. Mais dans toute cette opération, à peu près la moitié de distance, on peut dire, dans cette évolution, je me trouve malade. J'étais énormément fatigué. Et dans cette situation, j'étais en train de parler au Seigneur et il m'a donné un verset. Je vous invite à ouvrir la Bible à Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. J'ai pris en vacances un petit furlough pour récupérer, reposer aux États-Unis. Et je me trouve avec chez la sœur de ma femme, Carole, qui habitait en Floride. Et nous avons... les filles décidaient d'aller et j'ai dit, non, je vais rester ici, je vais reposer. Et donc, je vais lire cette verset et après je vais expliquer quelque chose d'intéressant. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est un appel au salut. Au moins, je crois. Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça, c'est un appel au service. Et je relis cette verset, j'ai lu beaucoup de fois avant, mais cette fois, j'ai dit, Seigneur, mon joug n'est pas doux et mon fardeau n'est pas léger. Quelque chose ne marche pas. Et le Seigneur répondu, c'est parce que vous avez ton propre joug. L'enseignement est prenez mon joug. Le joug appartient à Jésus. Et j'ai lu ça, et j'étais au genou, j'étais seul, et j'ai dit, pardonnez-moi, c'est vrai. J'ai commencé, je savais. Cette verset était là avant. Je savais que le Seigneur doit bâtir son église. Je savais. Mais dans le rythme et le concours de chaque jour, petit à petit, j'ai commencé, était moi-même. Et en effet, j'ai devenu malade. J'étais trop. Première fois, j'ai pris un vol, j'ai pris l'avion de Pérou aux États-Unis et je ne veux pas manger rien sur le vol. Normalement, je mange comme un roi, mais cette fois, rien. Jus d'orange. L'hôtel dit, jus d'orange? Oui, autre. C'est tout. Mais j'étais en mauvaise condition actuellement. Ellie et sa sœur ont sorti. Donc, j'ai allumé la télé. Poup! Un documentaire. Comment faire les jougs? Était Dieu là ou pas? Était quelques pays d'Amérique du Sud. Et il montrait comment il fait les jougs pour les bœufs. Et dans ce cas, était un côté était un peu plus grand que l'autre parce qu'il était un jeune baby buff et un papa buff qui était expérimenté. Et il fait les deux pour entraîner, pour préparer l'autre pour savoir comment travailler. Et donc, c'était intéressant. Il formait tout ça. Et donc, mis les deux ensemble et... Le bébé buff, il n'a jamais à travailler. Hein. C'est comme les enfants, hein. Ils vous jouent tout le temps. Et donc, mais il était lié à papa. Et les deux étaient ensemble. Et ils marchent quelque part. Le papa, il savait que faire. Et il va faire ce qu'il doit faire. Et le petit, maintenant, c'est lié au papa. Et donc, ça signifie joug. OK? Et donc, dans ce cas... le bébé, il était là, il prend quelque part et il regarde quelque gazon ou herbe ou quelque chose. Et voilà, il plouc, tout d'un coup, il est attaché. Il a un peu lieu pour bouger un peu, mais il ne peut pas bouger beaucoup. Il plouc, chaque fois, il dit boum. Il regarde un peu de fleurs, un peu de l'eau. Il veut faire tout ce qu'il veut, mais maintenant il ne peut pas. Et chaque fois, il me dit pouf, pouf, pouf. Et finalement, il était frustré. OK? Il veut arrêter. OK? Papa, il continue son travail comme normal. Mais le bébé, il veut arrêter. Donc, quatre jambes. Boum! Comme ça. Est-ce que papa a arrêté? Pas du tout! Quatre charrues en plus. Mais papa, il continue son travail. Et pour éviter de casser les jambes, finalement, le petit a pris marcher avec papa. Donc, ça a été la leçon. Qui est notre grand bœuf? On a lié à qui? Qu'est-ce qu'un joug? N'oubliez pas que Jésus était charpentier. Hein? Est-ce que vous savez que la population de la ville de Nazareth dans l'époque de Jésus était à peu près 210 personnes? Petite. La famille de Jésus, 9, maman, papa, 4 frères, 2 sœurs minimum. 9 personnes, une famille. On dit ça, c'est moyen. Donc, c'est pas. Je ne pense pas que Jésus était un charpentier. Je pense qu'il était le charpentier de Nazareth, simplement pour la taille des familles. 210 personnes, 8, 5. Donc, c'est pas beaucoup de familles dans la ville. Et le joug, Donc, quand j'ai commencé à réfléchir, symbolise quatre fois, quatre choses. Un, union, unité. Deux, devient un. Nous devons apprendre à marcher avec le chef, unis avec lui. Deux, éducation. Dans le même verset, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il y a apprentissage. Le domaine d'apprentissage est donné car je suis doux et humble de cœur. Il n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas une autre personne qui prend le contrôle. Troisièmement, le joug symbolise pour moi autorité, soumission. Un est le chef, l'autre marche avec. Jusqu'à l'apprendre. Et finalement, quatrièmement, le joug symbolise travail. Pour cette raison, on fait le joug. C'est pour travailler. Donc, il y a travail, il y a autorité, soumission, il y a éducation, et bien sûr, il y a union. Union. Les quatre choses de cette joug. Et quand je réfléchis sur ces choses, j'ai regardé ma vie et j'ai dit, il faut corriger certaines choses dans ma vie. Je suis comme le petit bœuf, je veux faire ce que je veux, mais papa bœuf, il a son travail à faire. Et quand je vis que papa bœuf, il fait ce qu'il veut, dès que le petit baby bœuf a commencé à marcher avec papa, il n'avait pas un problème de casser ses jambes, il n'avait pas un problème avec le cou. il marchait bien. Et de temps en temps, il peut regarder et voir, ah, regarde tout le travail que j'ai fait. Mais qui fait le travail? Papa, tout le temps. C'est lui, la puissance. C'est lui, l'autorité. C'est lui, le chef. Nous savons ça, mais était un moment où les disciples de Jésus, bon, deux moments, les disciples de Jésus, ils disent, qui sera le plus grand? Vous vous rappelez? Jésus prit un petit enfant. Et en effet, il dit, oui, devenez comme lui. L'enfant a la confiance totale et absolue dans son père. Le petit enfant. Tous ses besoins sont liés à son papa. Et Jésus dit, voilà, il faut confier en lui. Prenez mon joug. Si vous et moi, nous avons notre joug, vous souffrirez. Il y a travail à faire. Jésus même, il avait de soif, il avait des moments de fatigue. On sait ça. Ça, c'est normal. Je ne parle pas de ça. Ici, la leçon, c'est que c'est son œuvre. C'est sa puissance. Ce que nous faisons, si vous êtes pasteur, évangéliste, serviteur dans l'Église, c'est tout à lui. Nous disons ça, mais souvent nous n'appliquons pas ça. Et il faut reconnaître que c'est Jésus qui est le grand bœuf. C'est lui qui a la puissance de le faire parce que, en effet, l'œuvre, c'est surnaturel. L'œuvre n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. L'œuvre exige la toute-puissance de Dieu. Pas notre petite puissance de nous. Je donne ma vie pour permettre Jésus travailler à travers de ma vie. Nous pouvons répéter ça parce qu'on a lu quelque chose comme ça dans un cahier dans l'Institut biblique, mais c'est différent que l'expérience. L'expérience est autre chose. L'expérience est la vraie vie de Jésus quand il nous prendre pour faire son œuvre. Et donc comme ça, vous pouvez travailler beaucoup et rester réfléchi. Il y a un verset qui dit, ne savez-vous pas que le Seigneur ne se fatigue pas? Ouh. Si le Seigneur ne fatigue pas, et je suis en lui, et lui est en moi, pourquoi je suis tellement fatigué? Voilà. C'est une question de contrôle. C'est une contrôle de rester sur son joug. Et quand il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pour Dieu, c'est facile. Que signifie doux? Quand on fait le joug, il pense bien après de couper le bois, il fait un pansement et après on enveloppe avec le cuir. Donc il doit être la taille et forme correcte pour ne blesser l'animal et aussi confortable parce que quand il travaille, il peut se blesser et s'il s'est blessé, c'est pas confortable. Et tu va détruire un bon animal pour faire un bon travail. Et ça, c'est le joug. Et il dit, mon fardeau léger. Le travail que nous faisons, c'est un travail difficile pour nous, mais léger pour lui. Et donc, je veux vous encourager pour ne quitte pas le travail simplement parce que c'est trop dur. Mais reconnaître que c'est le Seigneur qui veut faire son travail à travers de vous. Et quand vous avez traversé beaucoup de champs, tu vas regarder tout ce qu'il a fait. Et moi, j'ai eu le privilège de marcher avec, sous le même joug, parce que c'est lui qui a demander que je travaille avec lui. Quel privilège. Merci beaucoup.